Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit,
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. L'ascension éclair d'Éric Zemmour. Un dernier sondage le donne au second tour face à Emmanuel Macron. C'est une première. Vous entendrez la réaction d'Éric Zemmour. On verra aussi comment ce sondage bouscule l'échiquier politique. L'horreur du Bataclan, mètre après mètre, le soir des attentats. Sur le passage des terroristes, vous entendrez le récit des survivants. Il s'exprime à la barre de la cour d'assises spéciale. Une marche blanche pour Chanel, cette jeune collégienne qui a mis fin à ses jours la semaine dernière dans le Pas-de-Calais. Ses proches dénoncent le harcèlement scolaire qu'elle subissait. C'est l'image qu'on retient du dernier hommage parisien à Bernard Tapie face à la foule. Son cercueil porté à la sortie de l'église par ses amis les plus proches. Reportage dans ce journal. La première réaction d'Emmanuel Macron au choc du rapport sur les abus sexuels dans l'église catholique. Vous entendrez également le chef de l'État. Le revenu d'engagement, bien loin de sa promesse initiale. Il s'adressait à tous les jeunes sans emploi ni formation. Trop cher. Après la fin du quoi qu'il en coûte, il ne sera versé qu'aux plus précaires. Explication à suivre. James Bond va-t-il remplir les salles? Mourir peut attendre. Deuxième meilleur démarrage de l'année en France. Les premiers spectateurs des 007 sont conquis. L'invité écho à 22h20, Vincent Cobé, le directeur général de Citroën, alors que les livraisons de voitures neuves sont en panne. Et puis on découvrira les unes des journaux demain matin.
Europe 1.
C'est donc le sondage dont tout le monde parle ce soir chez les candidats à la présidentielle et même au-delà. Pour la première fois, Éric Zemmour, toujours pas candidat, se qualifie pour le second tour de la présidentielle. 17 à 18% des voix au premier tour, sondage Harris Interactive, devant Marine Le Pen donc, 15 à 16%. Éric Zemmour était ce soir l'invité de Laurence Ferrari dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Sa première réaction.
Je le vis très bien, je suis ravi. Et très heureux que mes idées, mes convictions que je défends depuis longtemps aient un tel écho dans le pays. Ce que ça traduit, c'est le fond de mes idées et de mon discours. D'ailleurs, vous avez vu, tous les candidats me courent après. Maintenant, Mme Pécresse ne parle plus que d'immigration. Elle n'en a pas parlé pendant toute sa carrière.
Quel intérêt auriez-vous à annoncer votre candidature dès maintenant ?
Aucun, puisque je ne le fais pas. Et je pense qu'il faut choisir le bon moment. Mais ces sondages m'encouragent plutôt, je vous l'accorde.
Éric Zemmour avec Laurence Ferrari dans Punchline. On va voir avec vous, Louis Dragnel, quel est l'impact de ce sondage sur l'échiquier politique, sur les candidats à la présidentielle. D'abord, cela rebat les cartes pour Emmanuel Macron, Louis.
Absolument, c'est le premier impact parce que pour la première fois, Éric Zemmour est en mesure, si on en croit ce sondage, de se qualifier au deuxième tour de la présidentielle. Et donc forcément, voilà, très mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron parce qu'il rêvait d'affronter Marine Le Pen en duel, persuadé qu'il parviendrait facilement à la battre. Et ce n'est pas la même chose face à Éric Zemmour. Le président ne sait pas bien comment le saisir, comment le prendre, d'autant que la stratégie de vraie fausse campagne du polémiste ressemble énormément à celle qu'il avait lui-même mise en place en 2016 avant de se déclarer candidat et de gagner le deuxième tour de la présidentielle.
Oui, deuxième conséquence de ce sondage, Louis, c'est l'alarme qui sonne au Rassemblement national.
Oui, parce que mécaniquement, donc, si Éric Zemmour se qualifie au deuxième tour, ça veut dire que Marine Le Pen ne se qualifie pas et donc elle ne passerait plus la barre du deuxième tour. Et puis, Éric Zemmour continue de siphonner ses électeurs et elle ne parvient pas pour le moment à enrayer la chute de manière précipitée. Elle a d'ailleurs nommé ses 10 porte-parole de campagne juste au moment de la publication du sondage.
Oui, Marine Le Pen assure qu'elle n'est pas chamboulée. C'est son terme par ce sondage. Louis, ce sondage donc bouscule aussi les Républicains.
Et oui, la droite classique, c'est le troisième dommage collatéral de ce sondage. Même Xavier Bertrand, pourtant le mieux placé de tous les candidats de la droite, arrive 4 points derrière Éric Zemmour. Et puis ce qui fait mal, c'est que en fait, Éric Zemmour dit vouloir parler aux anciens électeurs du RPR qui aujourd'hui sont déçus par ce qu'il appelle la droite molle. Et beaucoup de ces électeurs sont encore membres ou sympathisants des Républicains et donc apprécient beaucoup Éric Zemmour et son discours.
Merci Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Ce ne sont pas encore des portes qui claquent, mais des murs qui craquent dans le camp du Rassemblement National. Le député européen Gilbert Collard tend clairement la main à Éric Zemmour.
De toute manière, à un moment donné, il faudra bien que l'un ou l'autre nous passions sur le pont pour aller rejoindre ou l'un ou l'autre. C'est la condition de la victoire contre Emmanuel Macron. Je verrai le 15 Éric Zemmour, je ne m'en cache pas, et je ne développerai aucun argument qui pourrait monter un camp contre l'autre. Je trouve que c'est idiot en s'opposant les uns aux autres parce qu'on est dans le même camp. Ce qui nous sépare, c'est une tonalité verbale parfois.
Gilbert Collard avec Alexis Delafontaine. Ce soir, les Républicains tenaient un bureau politique pour préparer les modalités du congrès de décembre qui doit investir leur candidat pour 2022. Vous y étiez pour Europe 1, Alexandre Chauveau. Et bien évidemment, ce sondage donnant Éric Zemmour au second tour s'est invité dans les discussions.
Oui, même si à la sortie, tous les membres du parti ont entonné le même refrain. Éric Zemmour occupe certes l'espace médiatique et politique, mais la campagne est longue et rien ne sert de s'affoler pour l'instant. En interne, on invoque même, je cite, « le calme des vieilles troupes », expression également employée par Marine Le Pen, pour tenter de calmer l'excitation autour d'Éric Zemmour. Pourtant, impossible de passer à côté de la dynamique de celui qui n'est pas encore candidat. Alors les Républicains s'interrogent. Comment susciter l'enthousiasme, a lancé Michel Alliot-Marie en bureau politique. Le patron du parti, Christian Jacob, refuse de céder à la panique.
Je ne suis pas du tout inquiet. Vous savez, des candidats qui ont été, non pas à 18 ou 20, mais qui ont été à 32, 33, 34, on en a eu dans notre famille politique, ils n'ont jamais été élus pour autant. Donc, il faut être serein, déterminé, avoir beaucoup de sang-froid.
Du sang-froid, il en faut aussi pour gérer l'épineuse question Xavier Bertrand, qui refuse toujours de participer au congrès. Christian Jacob l'a répété ce soir, le nordiste n'a plus qu'une semaine pour déposer sa candidature auprès du parti.
Merci Alexandre. Xavier Bertrand qui, après ce sondage, appelle son camp à se rassembler le plus vite possible, comprendre à nouveau derrière lui. Le dernier hommage de Paris à Bernard Tapie, une messe était organisée ce matin à l'église Saint-Germain-des-Prés en présence de nombreuses personnes. Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy, Lynn Renault et Michel Drucker. Mais l'image marquante est arrivée à la sortie de l'église quand des amis proches de Bernard Tapie ont porté ensemble son cercueil. Reportage Zoé Pallier.
Après 2 heures de cérémonie, les portes de l'église s'ouvrent. Elles dévoilent Basile Boli, Jean-Pierre Papin, Claude Lelouch et Jean-Louis Borloo. La joue collée au cercueil, ils le mènent jusqu'au corbillard. Derrière suivent des centaines d'invités. De quoi consoler un peu le petit-fils de Bernard Tapie, Rodolphe, porté par cette ferveur.
Ça aide beaucoup. C'est un deuil qui est très compliqué. On a cette chance-là par rapport à d'autres familles qui vivent ça au quotidien et ça aide énormément pour le deuil.
Le corbillard s'éloigne, applaudi par une foule d'admirateurs. Francis est arrivé parmi les premiers sur le parvis de l'église.
Saluer sa mémoire d'entrepreneur. Il a été audacieux toute sa vie. Il a quand même sauvé beaucoup d'entreprises. Ah ouais, c'est un mec. L'espoir insensible.
Tapie, c'était un modèle, confient plusieurs fans. Parmi eux, des supporters de l'Olympique de Marseille, comme Saya, venu avec le maillot du club.
J'ai été bercé avec l'OM et avec le boss, hein, bien évidemment. Il n'y en a qu'un seul des boss, c'est Bernard. Hein, donc j'ai arrêté mon travail exprès, voilà, juste pour venir. C'est quelque chose que, un moment que je ne pouvais pas rater.
Des admirateurs qui le promettent, leur cœur sera à Marseille demain pour la suite des hommages à Bernard Tapie.
Zoé Pallier à la messe d'hommage à Bernard Tapie ce matin à Paris. Le cercueil de l'homme d'affaires va rejoindre le stade Vélodrome à Marseille où sera dressée demain une chapelle ardente. Au procès des attentats du 13 novembre, la parole est maintenant aux survivants du Bataclan et aux familles de toutes celles et ceux qui ont perdu la vie sous les balles des terroristes. Gladys Laffitte, vous suivez le procès pour Europe 1. À la barre, les premiers rescapés du Bataclan à avoir vu les terroristes racontent.
Il est 21h47 quand Clarisse entend un son assourdissant qui déchire le silence de la rue. Elle est dans les vestiaires, regarde le videur. Je ne vois pas ce qu'il voit mais je comprends. La mort elle est là et il la voit. 3 terroristes s'engouffrent dans le Bataclan, tirent en rafale sur le public. Dans la coursive à droite de l'entrée, Irmine entend une voix juvénile et aiguë crier « La France n'a rien à faire en Syrie ». Elle tombe au sol, les assaillants rechargent leurs armes, un homme hurle de s'enfuir. Irmine s'échappe sans arriver à porter le corps de son ami qui a reçu une balle dans la tête. Le rythme des coups de feu ralentit. Jean-Marc, lui, est face au sol, à l'entrée de la fosse. Il voit le pied d'un assaillant. Les douilles tombent sur ma tête. Une personne est prise pour cible parce que son portable sonne, raconte-t-il, la voix basse et la gorge nouée. Il a fait le mort jusqu'à l'arrivée de la police. Aujourd'hui, il est en colère contre les assaillants, contre son pays et aussi contre lui-même pour avoir survécu.
Gladys Laffitte au procès des attentats du 13 novembre. Pendant encore 4 semaines, les victimes vont se succéder à la barre.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Le rapport sur les violences sexuelles dans l'Église est un séisme pour tous les responsables catholiques. Premier d'entre eux, le pape François, a dit sa honte ce matin au Vatican. « Je désire exprimer aux victimes ma tristesse, ma douleur pour les traumatismes subis et aussi notre honte, ma honte, pour une trop longue incapacité de l'Église à les mettre au centre de ses préoccupations. » Voilà pour les mots du souverain pontife. À son tour, Emmanuel Macron a réagi aujourd'hui depuis la Slovénie où se tenait un sommet européen.
Je pense que c'est un sujet qui d'abord touche des vies. Derrière les chiffres et les situations édifiantes qui sont décrites, ce sont des destins brisés, des femmes et des hommes dont les vies ont été bousculées, parfois brisées. C'est d'abord à eux que j'ai une pensée. Ensuite, je souhaite que ce travail puisse se poursuivre dans la lucidité et l'apaisement. Notre société en a besoin. Il y a un besoin de vérité, de réparation. Mais je pense que ce devoir de vérité, nous devons le faire à tous égards. Et ça relève aussi d'une ambition qui est la nôtre plus largement de protéger nos enfants. Les violences qui sont faites aux enfants, que ce soit des violences psychiques, sexuelles, sont intolérables. Et je pense qu'une société se regarde et se juge aussi à sa capacité à les dénoncer, à les punir, à essayer de réparer les vies, mais plus encore à les prévenir.
Emmanuel Macron au micro de Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 en Slovénie. Plusieurs centaines de personnes se sont jointes ce matin à une marche blanche dans le Pas-de-Calais pour Chanel. Cette jeune élève de 5e a mis fin à ses jours la semaine dernière au domicile familial. Chanel n'avait que 12 ans. Ses proches dénoncent le harcèlement scolaire qu'elle subissait au collège comme sur les réseaux sociaux. Maximilien Carlier a suivi cette marche blanche.
Environ 400 élèves, parents d'élèves, enseignants ont participé à cette marche, suivie d'une minute de silence. Beaucoup de personnes avec des t-shirts blancs et plusieurs messages « Protégeons nos enfants, stop au harcèlement ». Des photos de Chanel, il y en avait également cette fillette de 12 ans, blonde, cheveux frisés, un visage rond, des yeux en amande. Crystal et Lindsay sont les deux sœurs de Chanel.
C'était une petite fille beaucoup renfermée, donc nous parler, voilà, beaucoup de fierté pour parler. Elle nous protégeait tellement en fait qu'elle ne nous disait rien. On se rendait compte qu'elle n'aimait pas l'école, ça on peut le dire. Il faut que ça bouge, il faut que tout ça, ça s'arrête. On ne doit pas avoir peur d'aller à l'école, même enfin, les réseaux sociaux, tout ça, c'est partout du harcèlement, faut que tout ça s'arrête, c'est pas possible.
On se moquait de son sac, d'après les deux sœurs, qui veulent continuer à se battre. L'enquête, elle, se poursuit. Et pour le parquet d'Arras, il n'y a pour l'instant aucun élément qui vient confirmer la thèse d'un harcèlement scolaire.
Maximilien Carlier, le rappeur marseillais Naps, visé par une enquête pour viol. Une plainte a été déposée par une jeune femme de 20 ans qui l'accuse de l'avoir violée la semaine dernière dans un hôtel après une soirée en boîte de nuit. Sur son compte Instagram, Naps conteste en bloc cette accusation. Réduction de voilure pour le revenu d'engagement, c'était une promesse d'Emmanuel Macron lors de son allocution du 12 juillet. Il s'agissait alors de verser 500 euros par mois maximum à tous les jeunes sans emploi ni formation. Finalement, Emmanuel Duteil, c'est un gros coup de frein sur les ambitions initiales.
Oui, hein, la fin du quoi qu'il en coûte est passée par là, Bercy. On estime qu'avec la forte reprise et la pénurie de main-d'œuvre, un tel revenu mensuel ne doit concerner que ceux qui sont très éloignés de l'emploi. Selon nos informations, 500 à 600 000 jeunes de moins de 26 ans devraient être concernés. C'est moitié moins que ce que l'on imaginait au démarrage. Il n'est plus prévu d'intégrer à ce dispositif les travailleurs précaires. Et puis surtout, ce revenu va s'appuyer sur ce qui existe déjà et notamment sur la garantie jeune. C'est un dispositif géré par les missions locales qui offre un revenu de 500 euros par mois à des jeunes en échange d'un programme de retour à l'emploi. Ça va être mixé avec d'autres systèmes d'aide de retour à l'emploi qui existent eux aussi déjà. L'idée, c'est de s'appuyer sur ce qui marche, assume-t-on du côté du ministère du Travail, où l'on a du mal à cacher un certain énervement de voir ce revenu raboté par rapport à l'idée initiale.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. La troisième dose de vaccin anti-Covid devrait être élargie à tous les soignants. C'est la recommandation de la Haute Autorité de Santé. Ce rappel vaccinal est jusqu'ici réservé aux personnes âgées et à risque. La Turquie a ratifié l'accord de Paris sur le climat. Elle est donc le 191e pays à le rejoindre à l'approche de la conférence mondiale sur le climat, la COP26, le mois prochain à Glasgow, en Écosse. L'objectif est toujours de limiter la hausse moyenne des températures à la surface du globe. Vous l'avez reconnu, le James Bond nouveau est arrivé. Mourir peut attendre dans plus de 800 salles françaises. Il verra pour la dernière fois Daniel Craig dans son costume de 007 avec peut-être sa mission la plus difficile, relancer la fréquentation des salles de cinéma après la pandémie. Océane Théard a rencontré des fans assidus à la sortie d'un cinéma parisien.
C'est le James Bond qui, moi, m'a le plus touché. Spontanément, comme ça, c'est pas forcément le plus avec le plus de cascades, avec le plus d'effets spéciaux. Mais par contre, oui, c'est celui qui m'a, en fait, moi, le plus touché. Ouais.
Dans celui-là, je veux pas dire qu'on a perdu James, mais on a perdu James, quand même. Pour moi, c'est toute une époque. Et je trouve que ce Daniel Craig, au début, j'ai été assez dubitatif sur son rôle. Là, maintenant, pour le remplacer, bah, bon courage.
C'est vrai que l'ancien James Bond était plus, peut-être, l'icône intouchable et intuable. Et là, plus personnel, plus direct. Et c'est ça qui était intéressant, je trouve, avec ce personnage-là.
Il est touchant, en fait. Il est bien, il est complet. C'est un beau James Bond.
Voilà pour ces paroles de bond au fil à la sortie du dernier 007 cet après-midi. Si vous êtes tenté, sachez qu'il faudra tenir 2h43, c'est la durée du film. Veillée d'armes pour les Bleus avant France-Belgique. Coup d'envoi demain 20h45 à Turin pour cette demi-finale de Ligue des Nations. Les Bleus arrivés aujourd'hui en Italie, ils se sont entraînés dans l'antre de la Juve. C'est donc un remake de la demi-finale de Coupe du Monde remportée par les Bleus en 2018. Les Belges, évidemment, vont chercher la revanche, ce qui fait tout le sel de ce match, en plus du trophée à aller chercher dimanche soir en cas de victoire. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.
Moi, je l'ai considéré, et pas à titre négatif, c'est une parenthèse enchantée. On a tout fait pour se qualifier, pour être là dans ce Final Four. Voilà, après, je suis compétiteur, les joueurs sont compétiteurs, et quand on est compétiteur, ben, rien ne remplace cette adrénaline-là, ce sentiment-là, déjà par rapport à l'adversaire qu'on rencontre, qui est certainement une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe européenne, en y ajoutant évidemment le champion d'Europe, l'Italie, mais il y a beaucoup de qualité dans cette équipe belge et ça fait une affiche de prestige. Mais les joueurs ont envie de, d'être confrontés à un adversaire de cette qualité-là.
Voilà la parenthèse enchantée de Didier Deschamps au micro de Cyril de la Morinerie. Le temps pour ce jeudi.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur. Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien ? Les Seychelles vous présentent la météo.
Demain, le temps sera calme, Marlène Durand, et même lumineux dans l'ensemble.
Oui, alors on a des conditions anticycloniques qui s'installent progressivement. Alexandre, la perturbation qui va chercher à entrer dans le pays par le nord-ouest sera finalement atténuée, freinée dans sa course en raison de ces fameuses hautes pressions. Et donc, entre la Bretagne, la Normandie et les rivages des Hauts-de-France, le ciel va rester chargé toute la journée avec seulement quelques gouttes. Pas mal de nuages, de grisailles, voire de brouillard au petit jour sur les trois quarts nord du pays. Mais un temps bon, généralement bien ensoleillé qui va se mettre en place au fil des heures, donc il va falloir être un petit peu patient. C'est vrai que la matinée sera particulièrement nuageuse dans les régions du Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Lyonnais, en Haute-Savoie, avec quelques pluies possibles du côté de la Lorraine, de l'Alsace ou de la Franche-Comté par exemple. Et puis sur le tiers sud, du soleil dès les premières heures du jour, donc Aquitaine, Occitanie, Provence et du vent aussi d'ailleurs, près de la Méditerranée. Les températures maximales, 15 degrés à Mulhouse, 16 à Lyon, 18 à Lille, Paris, Rouen, Limoges, plutôt 19-20 degrés dans le sud-ouest et puis ça monte jusqu'à 23-24 entre la Côte d'Azur et la Corse.
Merci Marlène, rendez-vous à minuit pour un dernier point météo.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
À 22h17 sur Europe 1, c'est Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street limite la casse ce soir. La séance avait pourtant très mal démarré, mais les marchés se sont un peu repris en fin de séance.
Oui, encore beaucoup de turbulences aujourd'hui. Les avancées dans le dossier de la dette aux États-Unis ont tout de même permis au marché de se reprendre en fin de séance. Le Dow Jones gagne 0,30%, 34 417 points, plus 0,47% pour le Nasdaq. Les sénateurs républicains sont donc d'accord pour suspendre ce plafond de la dette jusqu'à décembre. Ça permet d'éviter un défaut de paiement aux conséquences très lourdes pour l'économie. À part ça, eh bien, les problèmes sont toujours là avec la flambée des prix de l'énergie. Le gaz a battu un nouveau record historique ce matin en Europe, une envolée des prix de 40% au plus fort de la séance. Ça se calme ce soir après les déclarations de Vladimir Poutine. Le président russe s'est dit prêt à augmenter ses livraisons de gaz à l'Europe.
Ça se calme aussi pour le pétrole. Claire, le baril de brut perd 2% ce soir à New York.
Oui, les cours du brut reculent, replient de 1,7% pour le WTI qui a quand même grimpé de 67% depuis le début de l'année. Alors la baisse du jour pèse sur les poids lourds de l'industrie pétrolière aux États-Unis. Chevron 7,09%, ExxonMobil moins 2%. Les valeurs technologiques qui bougent beaucoup en ce moment terminent, elles, en hausse. Apple gagne 0,6% après un début de séance plutôt difficile. Facebook plus 0,2%. Et puis Alphabet, la maison mère de Google, gagne 1%. Google qui a annoncé aujourd'hui 1 milliard d'euros d'investissement en Afrique.
À Paris, difficile aussi de suivre le marché parisien. Il fait déjà marche arrière ce soir après sa remontée hier.
Oui, le CAC 40 qui enchaîne séance de forte hausse hausse et de fortes baisses. Il perdait plus de 2% ce midi. Il limite finalement les dégâts, moins 1,26% à la clôture, 6 493 points. Le secteur automobile est en première ligne avec de gros replis pour les constructeurs. Stellantis, moins 3,5%, Renault, moins 3,9%. Les entreprises liées au secteur pétrolier qui ont beaucoup monté ces dernières séances, elles retombent également. Vallourec chute de près de 10%, Technip FMC moins 4,8% et Total Energy moins 1,4%. Ailleurs, en Europe, les marchés dépriment ce soir. Londres perd 1,1%, Francfort moins 1,5%, Milan moins 1,3%, Madrid moins 1,7%. Et pour le CAC 40 à Paris, c'est un repli de 1,3%.
Merci Claire Lemaître de Boursier.com. La reprise économique est là, mais les constructeurs automobiles n'arrivent pas à suivre. Les livraisons de voitures neuves sont en panne. L'invité éco ce soir, Vincent Cobé, le directeur général de Citroën, il répond à Emmanuel Duteil.
Bonsoir Vincent Cobé.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête de Citroën. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est pour comprendre pourquoi le marché automobile français semble à la peine en ce moment. Tout le monde met en avant une raison pour expliquer l'effondrement encore des ventes, par exemple, au mois de septembre, 20% de baisse environ par rapport à 2019. Tout le monde dit que c'est parce que tout simplement vous n'avez pas assez de composants électroniques, on n'arrête pas d'en parler depuis des mois, et que tout simplement vous n'arrivez pas à livrer les voitures. C'est vrai, c'est ça la raison?
Depuis deux ans, on vit une crise sanitaire. Effectivement, l'activité en termes de commandes est revenue à un niveau similaire à ce qu'elle était il y a deux ans. Quand on regarde ce que vous avez mentionné, les livraisons, il y a un phénomène qui est encore lié à la pandémie, qui est le retard pris dans des fabrications et des livraisons. Mais principalement, l'impact que vous mesurez est le manque de composants électroniques qui, effectivement, limite la quantité que nous pouvons produire. Qu'est-ce que nous faisons vis-à-vis de ça? Première chose, nous mettons en priorité nos clients privés, nous mettons en priorité des clients directs pour essayer de minimiser la frustration, j'allais dire, et permettre l'acquisition de nouveaux véhicules. Et puis ensuite, nous travaillons sur notre chaîne d'approvisionnement pour essayer de réduire et d'effacer ces délais le plus possible.
Mais d'ici à combien de temps pensez-vous que ça va se résorber? La plupart de tous les experts disent qu'il n'y aura pas d'amélioration, en tout cas de début de l'amélioration, rien avant février prochain. Ce sont vos prévisions également?
J'ose espérer qu'on va avoir quelques améliorations, mais ça restera une situation de pénurie. Certainement dans la première moitié de l'année 2022.
Parce que, prenons un exemple, par exemple, votre dernière voiture, la C3 ou autre. Là, si je viens la commander chez vous, là, Vincent Cobé, demain matin, vous allez me dire que je vais être livré quand?
3 à 6 mois.
Ah oui, ce qui est exceptionnel. Est-ce que c'est déjà arrivé?
Bon, vous savez, on a eu tout un tas de crises les unes après les autres. Si vous vous rappelez les périodes de 2008 ou les périodes de 2010 ou 2011 où il y a eu des événements soit financiers, soit climatiques.
Mais on est sur quelque chose de quasi historique quand même.
Là, on est sur quelque chose de mondial surtout. C'est quelque chose qui touche tout le monde.
Alors, je voudrais par ailleurs comprendre pourquoi vous arrêtez la C1. Là, quand on va sur votre site et qu'on veut en acheter une, on nous dit en fonction de la limite des stocks, et pas parce que vous n'arrivez pas à la produire, parce que vous allez arrêter d'en produire et vous allez abandonner totalement ce segment de l'entrée de gamme, parce que vous dites qu'à cause des normes environnementales, ce n'est plus possible d'avoir une voiture compétitive en entrée de gamme. Toyota va maintenir pourtant la copie de la C1, l'Aygo. Ils y arrivent, vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire, vous alors?
Je pense qu'on n'a pas les mêmes hypothèses. Si vous voulez, ça fait un certain nombre d'années que l'accumulation de trois phénomènes qui sont les règlements d'émissions, les règlements plus généraux d'équipement et les demandes des clients enrichissent le coût d'un véhicule de ce qu'on appelle un segment A. Ce qui veut dire que des véhicules qui, il y a quelques années, se vendaient entre 7 500 et 9 000 euros, demain devront être vendus entre 11 et 12 peut-être. Quand vous regardez ça, aujourd'hui, entre 11 et 12 000 euros, vous pouvez accéder à des véhicules plus gros. Chez nous, ça, vous allez trouver un certain nombre de véhicules type C3 qui seront dans des prix très voisins. Donc en fait, là, il n'y a plus d'identification en termes de positionnement prix de ce produit de l'ultra-compact Citadine. Après, il y a un transfert vers d'autres offres. Je tiens à souligner, Citroën Ami est une offre urbaine, très compacte.
C'est une voiture effectivement là d'entrée de gamme, on est à 7 000 euros, les plus jeunes peuvent également la conduire, on est sur un concept car complètement différent, c'est malgré tout pas tout à fait la même chose.
Quand vous regardez les types d'usages de véhicules ultra compacts, ce sont souvent des transports avec une seule personne à bord, sur des distances courtes, avec des vitesses pratiquées faibles. Honnêtement, en type d'usage, on est assez voisin de ce qu'offre une Citroën Ami. Bien évidemment, on ne parle pas du même produit. Il y en a un qui est électrique, l'autre qui ne l'est pas. Il y en a un qui a deux places, l'autre qui en a quatre. Mais quand vous regardez l'usage réel, c'est pas si loin. Et donc, en fait, ce qui va se passer, pour, si on prend un peu de recul, c'est que les mobilités urbaines et périurbaines vont se transférer sur des véhicules électriques et que le coût de l'électrique est tel que de nouveaux concepts sont nécessaires.
Alors justement, parlons de nouveaux concepts, parce que c'est aussi votre actualité du côté de chez Citroën. Vous venez de développer, notamment avec Accor et le groupe d'affichage JC Deco, une plateforme pour développer des véhicules autonomes. Déjà, on peut se dire, qu'est-ce que vient faire un hôtelier, un spécialiste de la publicité et un constructeur automobile? Qu'est-ce que vous allez faire?
Alors ça, c'est très intéressant. D'un côté, la mobilité urbaine est un enjeu sur lequel on voit aujourd'hui beaucoup plus de chaos que de solutions. Des restrictions sur la voiture telle qu'on la connaît historiquement, des modes de transport public qui, au-delà d'être structurellement déficitaires, posent un certain nombre de questions, qu'ils soient de sécurité ou de sécurité sanitaire au cours des 18 derniers mois, et globalement un échantillon très large de solutions récentes qui vont de la mobylette à la trottinette électrique, à des autopartages qui ne satisfont pas les demandes de tout le monde, voire présentent un certain nombre d'autres enjeux de sécurité et d'usage de l'espace public. Le deuxième constat, c'est que le véhicule autonome électrique est quelque chose qui peut coûter très cher. Donc notre idée, c'est de dire, si on veut redonner de la liberté dans l'espace urbain, il faut rendre la technologie partagée et il faut redonner de l'expérience aux gens qui voyagent en ville, plutôt que de passer 2 heures dans des embouteillages, faites quelque chose de ce temps. Donc on a inventé ce qu'on a appelé un skateboard, c'est-à-dire c'est la technologie qui se déplace, qui est autonome, qui est électrique, qui travaille 20 heures sur 24. Et dessus, on met ce qu'on a appelé des pods, qui sont des lieux d'expérience. Ça peut être une lounge, d'accord ? Ça peut être une salle de sport Pullman, ça peut être un espèce de minibus individuel JC Deco, mais ça pourrait être demain un coiffeur, une masseuse ou d'autres choses. Et ça, ça vous permet de faire 2 choses. Ça vous permet de rendre la technologie électrique autonome abordable. Ça vous permet aussi de redonner de l'expérience qualitative aux usagers plutôt que passer du temps dans des embouteillages.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces détails. C'était Vincent Cobé, le patron de Citroën. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1. Merci à vous.
Merci à vous, Emmanuel Duteil. Notez ce rendez-vous demain à 13h dans La France Bouge sur Europe 1 avec Aurélien Fleureau et Elisabeth Assayag qui accueilleront le patron de la pataterie. Patron très heureux puisqu'il vit une période assez folle depuis qu'un touriste américain a encensé ses restaurants sur les réseaux sociaux.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Voyons ensemble les unes de vos quotidiens pour demain matin. Zemmour, Le Pen, tango mortel à la une de l'opinion avec ce sondage Harris Interactive dont on vous parle ce soir sur Europe 1 qui classe Éric Zemmour entre 17 et 18% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle, le faisant donc en deuxième position derrière Emmanuel Macron et devant Marine Le Pen qui tombe elle à 15 ou 16%. Le quotidien L'Opinion ne mâche pas ses mots. C'est un duel à mort qui s'engage entre la candidate du RN et le polémiste avec un enjeu, une éventuelle place bien sûr pour le second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron. Vos quotidiens saluent aussi les bons chiffres du chômage, la spectaculaire inversion de la courbe, titre Les Échos, puisque le taux de chômage selon l'INSEE devrait reculer à 7,6% d'ici à la fin de l'année. C'est un point bas jamais atteint depuis 2008. Cette baisse spectaculaire du chômage en France est aussi la une du Figaro Économie, performance qui résulte du dynamisme des embauches, puisque pour 2021, on s'attend à plus d'un demi-million de créations nettes d'emplois. Dopée par la levée des restrictions sanitaires, l'économie française devrait donc retrouver son niveau d'activité d'avant-crise à la fin de l'année, sans toutefois le dépasser. Un zoom dans la croix sur cette mauvaise passe que connaît décidément Facebook en ce moment après la panne géante que vous avez sans doute expérimentée sur les réseaux sociaux du groupe en début de semaine. Hein, Facebook, Instagram, mais pas seulement. La croix donc, titre sur cette mise en accusation de Facebook alors qu'une ancienne ingénieure du réseau social, ingénieure informatique, reproche au groupe de Mark Zuckerberg de construire des algorithmes susceptibles de provoquer une forme d'addiction chez les utilisateurs. Libération vous propose demain un entretien exclusif avec Lula. Le Libé a rencontré l'ex-chef d'État brésilien qui prédit une défaite pour Bolsonaro, cette figure de la gauche, Lula da Silva, qui envisage d'affronter le président d'extrême droite en 2022. À un an de l'élection, il est en tête des sondages. 22h et bientôt 30 minutes sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver la libre antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Concentré sur vos notes déjà.
Concentré car nous avons ce soir déjà beaucoup d'appels au 39-21 et beaucoup de choses qui vont se raconter comme tous les soirs. Donc je suis chaud. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour votre flash.
À tout à l'heure
à 23h,
Olivier.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.